IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Célia Rombaut, ce soir, Rombaut, les couches de l'oignon, du traumatisme à la résilience, un chemin spirituel. Mama Édition, l'autrice, c'est Célia Rombaut, est une thérapeute spécialiste dans l'intégration de la mémoire traumatique et dans l'éveil de la sexualité féminine après avoir reçu pendant plusieurs années en cabinet, elle partage aujourd'hui son expérience et son expertise à travers divers médias. Elle propose aussi des accompagnements en ligne pour les femmes et des retraites thérapeutiques et initiatiques. C'est un livre de témoignages intimes et sensibles sur les conséquences psychiques des viols qu'elle a subis dans un réseau pédophile. Elle est devenue thérapeute depuis. Bonsoir, Célia Rombaut.
Bonsoir.
Vous êtes très pudique dans votre livre sur ce qui vous est arrivé. Quand on commence le livre, si on n'a pas lu la quatrième de couverture, on n'y comprend rien dans les premières pages. Dans le chapitre 1, le grand fracas, je vais commencer par le lire. Mes pieds nus dans l'herbe mouillée, la chemise de nuit sur mes mollets, de petite fille et cette voix derrière moi. T'es sûr que ça ne craint rien? Ouais, j'ai fait ça plein de fois. Puis la main d'homme sur ma cuisse, ses yeux, les cris de la petite fille à mes côtés, ses hurlements et mon silence. Ça, c'est quelque chose qui vous restait. Où est-ce que vous êtes allé le chercher? Parce
C'est quelque chose qui est revenu. Il n'y a rien qui me restait. Je le dis d'ailleurs quelques lignes plus tard que j'ai gardé de ces souvenirs que quelques images, mais des images hors trauma. Je me souvenais du chemin pour aller à cet endroit, les feuilles mortes, je me souvenais de la chemise de nuit de cette amie, mais les événements du trauma, j'avais occulté. Et d'ailleurs, j'ai compris en me spécialisant dans c'est quoi le trauma, c'est quoi la mémoire traumatique, que plus un événement il est traumatique, plus il va y avoir amnésie. C'est une conséquence logique en fait. Donc, plus c'est terrible, plus on va oublier.
Et donc, vous étiez mal dans votre peau, ça on peut le dire. Le livre commence avec tous les soucis que vous aviez dans votre vie. Il y en avait beaucoup.
Oui, c'était souffrant, d'autant plus souffrant de ne pas comprendre pourquoi c'était souffrant, de ne pas comprendre. Pourquoi je me sentais mal et puis surtout beaucoup de haine envers moi-même. J'avais beaucoup de. Je me détestais en fait. Il y avait vraiment. Et puis c'était physiquement vraiment douloureux. Je pouvais sentir dans mon corps des tiraillements, des cris. Bon, aujourd'hui, je peux comprendre hein, que c'est de la reviviscence. Hein, c'est une façon de revivre son trauma, de revivre la détresse et que le corps, il est en détresse permanente, quoi. Mais je ne comprenais pas. Du tout, pourquoi? Et puis j'ai mis du temps à comprendre aussi que tout le monde vivait pas autant de souffrances. Un jour, j'ai réalisé en parlant avec quelqu'un que cette personne, elle avait jamais eu envie de mourir. Et j'ai pas compris. Je pensais pas que ça existait en fait. Pour moi, la vie était insupportable et c'était un état de fait pour tout le monde. Mais non, c'était pas le cas. Heureusement.
Oui, sur l'envie de suicide, vous écrivez à la page 44. J'imagine régler tous les détails des obsèques en avance, mettre une bâche sous mon corps pour ne pas tâcher, appeler moi-même les pompiers pour annoncer ma mort, mourir mais ne pas déranger, ne pas faire de vagues, même dans la mort, tout faire pour me préserver de ces horreurs tapies si profondément, de cette terreur qui me paralyse. Pensez à pas faire de vagues.
Oui. Ben en fait, dans le trauma, donc il y a le figement, c'est-à-dire quand un événement il dépasse notre capacité d'intégrer, d'abord le cerveau il va tenter de réagir en envoyant plein d'hormones de stress, puis les hormones de stress elles commencent à devenir dangereuses pour le corps. Du coup, le cerveau sidère, la personne coupe, elle fige. Et elle va se couper selon l'intensité du trauma, donc l'intensité de ce que le cerveau a dû couper, de la dissociation, du figement. On va être coupé de ses sensations, de sa conscience corporelle, de ses émotions. On est coupé de tout un tas de choses et ça nous isole énormément du monde. Et il y a comme un mécanisme pervers qui fait que c'est pas déjà on n'a pas accès nous-mêmes à ce qu'on ressent, à qui on est. Et du coup, c'est impossible d'avoir accès, de se dire aux autres. Et donc, il y a un mécanisme qui fait qu'on se cache aux autres, malgré soi. C'est plus fort que soi. Et ça va de pair avec la honte et les pensées dévalorisantes qu'on peut avoir sur soi. Je pourrais y revenir plus tard parce que ça, c'est aussi vraiment lié à des conséquences d'agression, toutes sortes que ça peut être. Et du coup, il y a vraiment ce mécanisme de cacher, de pas dire. Il y a un isolement terrible. Et dans mon histoire en particulier, il y a vraiment eu des menaces de mort très, plus que tangibles. Et il y avait aussi une peur de si on sait, je vais mourir. Donc il y avait aussi quelque chose qui paralysait et enfin, c'est des espèces de sacs de nœuds qui aujourd'hui, j'ai mis vraiment de la clarté, de la lumière de comment ça fonctionne tout ça, mais à l'époque, j'y comprenais absolument rien.
Oui, dans le si on sait, je vais mourir, c'est si les personnes qui vous ont fait ça savent que vous l'avez dit, c'est ça.
Oui, c'est ça. Quand j'en ai, quand c'est remonté pour la première fois en thérapie, j'en ai parlé. J'ai été pendant des mois, j'étais terrorisée. En fait, c'était complètement illogique, mais tellement logique en termes de trauma. Mais j'étais persuadée que le fait que ça a été sorti de ma bouche, ça a été entendu, même si c'était dans un lieu clos. Ils allaient le savoir, ils allaient me retrouver, ils allaient me tuer. Et à l'époque, je ne me souvenais même pas encore que j'avais été menacée de mort, que j'avais vu la mort devant moi, etc., etc.
Que vous avez un pistolet sur la tempe à 8
Oui.
Donc, où vous en êtes maintenant? Vous n'allez pas essayer de, sans vengeance, de dénoncer ces gens-là?
Suis pas du tout dans cette démarche pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'élan le plus fort que j'ai eu, ça a été de moi aller bien, m'en sortir, retrouver la liberté d'être, retrouver la capacité à être dans le présent, être dans la joie, à vivre, à goûter la vie. Et toute mon énergie, je l'ai mise là. Et aujourd'hui, toute mon énergie, je la mets à aider les femmes à en être là. Et après, je crois qu'il y a aussi une question de couleur. Je pense qu'on a tous des chemins de vie. Et il y en a, ils se battent pour la justice. Il y en a, ils se battent pour la vérité. Et moi, vraiment, mon élan, c'est vraiment m'aider. Maintenant que moi, je m'en suis sortie, j'ai traversé, que je suis vraiment heureuse dans ma vie, le seul endroit où j'ai envie de mettre de l'énergie, c'est aider les autres à en faire de même. Et après, au-delà de ça, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait déjà que je ne crois pas du tout dans le système de la justice à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que ben, malheureusement, il y a tellement, tellement, tellement de non-lieux. Toutes les plaintes de viol, c'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont protégés. Moi, j'ai subi, c'est un réseau quand même bien organisé et à mon avis, c'est complètement ficelé. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, après, il y a qu'est-ce que moi, je ne crois pas au système punitif. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, les personnes qui commettent des horreurs, c'est des personnes qui sont dans une souffrance terrible. Oui, je suis d'accord qu'à un endroit, ça a du sens d'empêcher ces personnes de continuer. Là, je peux rejoindre le système de la justice actuelle. Mais après, ces personnes, pour moi, elles ont besoin d'aide aussi. Et en ça, j'adhère pas. Et une troisième chose, et je pense que c'est aussi ce que je partage amplement dans mon livre, c'est à un autre niveau. Donc, il y a le niveau de la petite fille qui a vécu toutes ces horreurs, et la petite fille, ben, ça a été en thérapie, et ça a été comment on a pu aller la chercher, et comment auprès d'elle, on a pu dire que c'était inadmissible. Et dans tous les actes de réparation imaginaire que j'ai pu faire, oui, j'ai envoyé ces personnes en prison, je les ai massacrées, j'ai déchargé tout ce que j'avais reçu, je l'ai rendu. Et ça, c'est vraiment important. Pour elle, c'est inacceptable, inadmissible. Et là-dessus, il n'y a aucune négociation possible. Après, il y a l'adulte que moi, je suis aujourd'hui, que je viens de vous partager. Et après, il y a une dimension plus large. Cette dimension, elle est difficilement exprimable par des mots. Et je pense qu'on peut la comprendre vraiment quand on l'a traversée. Mais Lors de ces agressions que j'ai subies, ces viols, ces menaces de mort, j'ai fait une expérience de mort imminente. Je suis sortie de mon corps, j'ai vu la lumière, j'ai connu l'amour. Certes, j'ai tout oublié, je suis retournée dans mon corps, et puis il y a eu ces années d'errance vraiment sombres et terribles. Et je suis revenue quand même de cette expérience de mort imminente avec une flamme de vie, quelque chose qui... Je savais qu'un jour j'allais goûter le bonheur. Parfois, malheureusement, j'en doutais. C'est mes moments les plus sombres. Mais il y avait quelque chose qui était là et qui m'a jamais lâché la main, même si je le sentais pas. Et cette chose a fait que j'ai continué jusqu'à ce que toutes les horreurs de mon histoire soient ressorties. Et ce qui se passe dans le processus thérapeutique, c'est que pour pouvoir faire émerger un fragment traumatique, il faut qu'il y ait de la sécurité dans le présent. Il faut augmenter notre capacité à soutenir l'intensité d'une émotion. Et ça, c'est tout un processus qui prend du temps. D'où le titre du livre, Les couches de l'oignon. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour consolider. Il y a un fragment traumatique qui émerge et on va prendre du temps pour l'intégrer. On va ramener tout ça dans le présent. Et il y a tout un protocole pour ça, et ça dure un moment. Et puis, quand la personne est plus dans le présent, plus solide, ça y est, elle a complètement intégré ce fragment qui lui est arrivé, c'est terminé, c'est passé, aujourd'hui, je suis dans le présent. Il y a un autre fragment qui remonte. Et à nouveau, faut consolider. Et on va descendre comme ça. Et plus on descend dans les couches, et puis pour ça, il faut passer par plein d'étapes. On va pas rester que sur un trauma. Tous les traumas, ils se font écho. Souvent, il faut aller dans la période vraiment précoce de la vie. Comment on a été accueilli quand on était bébé, qu'on était en détresse. Ça va être fondamental sur notre capacité à vivre l'intensité de l'émotion. Parce qu'un bébé qui est débordé, si tout de suite il reçoit de l'aide et on l'aide à se réguler, il va petit à petit augmenter sa capacité à soutenir la détresse. Parce qu'il sait que l'aide, elle va arriver et qu'il va se réguler. Et ça, cette personne-là, elle va pouvoir soutenir vraiment des intensités émotionnelles sans se couper, sans dissocier. Moi, c'était pas mon cas. Et du coup, j'ai dû beaucoup aussi retravailler sur toute cette période-là pour augmenter ma capacité à soutenir une charge émotionnelle intense sans que mon cerveau ait besoin de couper. Et le cadeau là-dedans, c'est que augmenter sa capacité à soutenir une émotion intense, c'est une émotion intense dans toutes les dimensions émotionnelles, pas que les négatives. C'est-à-dire que c'est augmenter sa capacité à aimer, augmenter sa capacité à recevoir l'amour, augmenter sa capacité à recevoir la lumière. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret d'avoir vécu ça. C'est assez fou, mais j'en ai fait un cadeau, en tout cas. Je peux dire ça.
Vous allez jusqu'à remercier à la fin du livre.
Oui.
On va rester sur ce qui s'est passé. Et quand vous en avez parlé à vos parents, est-ce que, je ne sais pas, votre père, votre mère n'a pas eu envie de se mettre en quête
Oui.
ça s'est passé dans une colonie de vacances, donc c'est quand même vachement, c'est quand même facile de savoir qui était là cette année-là.
Oui, ce serait facile de savoir qui étaient les animateurs. Après, ce n'est pas les animateurs qui ont agi. Effectivement, ça a été leur réflexe, hein. Leur réflexe a été de dire, ma mère a fait le choix de déposer une plainte anonyme. Moi, je leur ai demandé, je leur ai dit que moi, je ne voulais pas. Je pense qu'il y a toujours cette part
De peur. Parce
de
que c'est
peur, ouais.
peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de femmes qui parlent pas.
Ouais.
De peur d'avoir des représailles. Parce que là, c'était vraiment un réseau, hein. C'était avec plusieurs petites filles. Ça s'est passé plusieurs fois. Je veux dire, c'était pas un cas de viol une seule fois et on revient pas. C'est-à-dire, c'était vraiment, ils
Très
étaient,
organisé.
oui, ils étaient 4-5, enfin, je veux dire.
Ouais.
Et les autres enfants qui étaient là, vous, il n'y a pas de... Peut-être qu'il y en a une qui va lire le livre. Hein.
Ben, j'y ai pensé. Après, je vais vous dire, pour ceux qui ont lu le livre, pour vous qui avez vu le livre, je vois, moi j'ai dédié ma vie à intégrer ce trauma. J'ai eu la chance de pouvoir le faire de différentes façons. C'est énorme le nombre d'années qu'il m'a fallu pour que les fragments les plus profonds remontent. C'est énorme la persévérance, le courage, les moyens qu'il m'a fallu pour ça, dédié à ça.
Oui, les moyens financiers, c'est fou que vous êtes allé taper partout. C'est pas des séances qui sont gratuites. Je veux dire, ça a dû vous coûter une fortune.
Une fortune. Et souvent, je me fais cette réflexion et je me dis que, mais sûrement que la majorité, peut-être même toutes les femmes qui ont vécu ça, petites filles, ne s'en souviennent pas. C'est ce qui me semble le plus probable, vu tout ce qu'il m'a fallu démener pour que des fragments si profonds émergent. Et encore, à l'époque du livre, je n'avais pas tous les éléments. J'ai encore des éléments qui sont revenus, qui sont au paroxysme de l'horreur. Plus un trauma est grave, plus on l'oublie. Il faut s'en souvenir. Et là, on est quand même dans une intensité traumatique des plus extrêmes.
Mon Dieu, qu'il y en a des croix sur cette terre, croix de bois, croix de fer, humble croix familière, petite croix d'argent pendue sur des poitrines, vieille croix des couvents perdue parmi les ruines. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête l'immense croix de plomb, vaste comme l'amour. J'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, dans la tête, un mot y est gravé qui ressemble à souffrir. Et ce mot familier que Mèvre répète est si lourd à porter que j'en
Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Célia Rombaud, Les couches de l'oignon, aux éditions Mama Édition. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, là, vous êtes remontée à 8 ans, mais après, il y avait quelque chose qui était avant, qui s'est passé à 5 ans. Et comme ça peut souvent se passer dans les familles, malheureusement, là, c'était l'oncle ou c'était une personne de la famille. Et ça, c'était complètement effacé aussi.
Ça, c'était complètement effacé aussi. Je me souvenais d'une scène, mais c'est souvent ça. Souvent, on se souvient d'une scène, mais la fin de la scène, le début de la scène, on ne se souvient pas vraiment de la partie traumatique de l'événement. Après, c'était cette scène-là à 5 ans dont je me souvenais que partiellement, mais que je me souvenais que je n'aimais pas cet oncle et que je n'aimais pas ce souvenir où il m'avait embêté, où il m'avait piqué mes chaussures. Bon, j'en étais restée là, c'était plus que ça. Mais ce qui a été vraiment cataclysmique dans mon parcours thérapeutique, ça a été de sentir et de réaliser que c'était bien plus tôt que 5 ans. Et toutes les sensations d'intrusion dans mon corps, c'est vraiment dès le plus jeune âge, parce que j'ai réalisé que cet oncle, c'était l'amant de Manu. Et puis il y a eu aussi, j'ai eu pas mal d'échanges avec mon frère qui était aussi là, qui a un peu d'écart avec moi et qui a aussi, on a voilà des souvenirs qui concordent à la fois chez la nounou, à la fois un souvenir aussi chez ma grand-mère. Ils habitaient tous dans le même quartier, quoi. Du coup, c'est vrai que ça, on dit souvent que d'avoir été victime d'abus sexuel favorise le fait d'être victime plus tard. Et il y a quelque chose dans les prédateurs, les agresseurs sexuels, organisés en tout cas, ils sentent ça, ils savent ça. Et ils savent que c'est des petites filles qui vont se figer, qui ne vont pas dire, parce que c'est déjà inscrit. Et c'était comme, quelque part, c'est terrible à dire, mais un peu prédictif d'avoir déjà vécu ça.
Ce sont des proies.
Oui.
Et ça peut même arriver étant adulte, hein, c'est-à-dire on peut même se faire violer à 40 ans.
Ah oui, c'est sûr. Malheureusement,
il n'y a pas d'âge. Alors, vous êtes passé par un tas de thérapies. Vous avez commencé déjà une psychothérapie au départ. Hein. Vous êtes allé voir des psys.
Ouais.
Ça n'a pas été forcément là où vous en avez changé. Après, vous avez fait un travail sur l'enfant intérieur en hypnose. Après, en astrologie, en chaîne-ligne, en kinésiologie, en méditation vipassana, en méthode Tipeee. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et après, c'est là où vous êtes arrivé sur la dissociation traumatique.
Ouais, je fais aussi beaucoup de constellations familiales, je le précise, parce que j'adore les constellations familiales.
Ça, vous y êtes arrivé à la fin dans le livre. Les constellations familiales, elles y arrivent.
Enfin, peut-être après ce passage, c'est vrai.
Donc, la dissociation traumatique.
Ouais, mais ça, en réalité, c'était après les constellations que j'ai été sur les dissociations traumatiques. À un moment donné, j'ai été dans une thérapie plus par le corps et l'énergie. Je me formais à ça en même temps. Donc, à la fois, j'étais suivie et je me formais. Et donc, j'avais ma thérapeute référente. Et en fait, cette thérapeute, au moment où moi, mon trauma, il a commencé à émerger, déjà dans les séances qu'on faisait, puis suite à une séance avec une énergéticienne, Agnès Thévenin, qui a après passé mon livre, le trauma a commencé à remonter. C'est là où j'ai eu cette première scène, la première scène du livre, c'est le premier fragment traumatique qui est remonté. Et en fait, quand j'ai parlé à ma thérapeute pour dire oui, je comprends pas, j'ai des souvenirs, mais c'était pas encore exactement ce souvenir-là, elle était en train de se former en EMDR, qui est une pratique spécialisée sur le trauma. Et on a commencé l'EMDR ensemble. Et c'est là où il y a toute la première couche de mon trauma qui est ressortie. Donc, cette scène dont j'ai parlé, les premiers viols, la sortie de corps, etc. Et ça n'a pas changé sur mes angoisses et sur mes états dépressifs. Mais par contre, ça a vraiment changé sur l'estime que j'avais de moi-même, sur la haine que j'avais de moi-même. Il y a quelque chose, ça s'est repositionné, quoi. Et j'ai vraiment senti que comme j'étais quelqu'un de bien, j'étais persuadée d'être mauvaise, d'être une mauvaise personne. Et ça a vraiment apaisé, ça a remis les choses à leur place. Et j'ai pu retrouver des parts de moi que j'avais laissées en cours de route. Mais c'était que la première couche.
Et le fait de se sentir épié, regardez, c'est passé à quel moment, ça s'est arrêté à quel moment? Le fait de toujours se sentir regardé, épié, même quand vous étiez seul.
Quand est-ce que c'est passé? Ben là, à peu près à ce moment-là aussi. Je pense que ça a été la thérapie EMDR qui a aidé ça. Maintenant, je comprends le lien avec quand il y a trauma, il y a des liaisons cérébrales qui se brisent entre, on va dire, le cerveau émotionnel et les lobes préfrontaux, la conscience de soi. Et le fait que ces liaisons soient brisées, il y a quelque chose où la conscience de soi, elle est plus à l'intérieur de soi, elle est un peu à l'extérieur. Et en fait, on a, quand la dissociation est vraiment importante, ça peut donner deux effets, un effet de dépersonnalisation et un effet de déréalisation. La déréalisation, ça veut dire que ce qui nous arrive ne semble pas réel. Donc ça, typiquement, moi, c'est des souvenirs que j'avais de chemin sous les feuilles, la chemise de nuit de mon ami. J'arrivais pas à savoir si c'était quelque chose que j'avais vraiment vécu ou si c'était de l'ordre du rêve. Et ça, c'est typique des personnes qui arrivent en séance et qui disent oui, il y a eu ça, mais je sais pas si ça m'est vraiment arrivé ou c'est un rêve. Si la personne elle vous dit ça, vous savez que c'est du trauma. C'est typique, c'est de la déréalisation. Je sais pas si ça m'est arrivé ou si ça n'est pas arrivé. La personne a dissocié. Et il y a des réalisations. Et il y a la dépersonnalisation, c'est « ça m'est pas arrivé à moi ». Et ces deux états-là font que la conscience de la personne, elle est fractée, elle est fragmentée, et la personne, elle se voit toujours un peu d'ailleurs. Elle vit sa vie sans la vivre. Elle est vraiment extérieure à elle-même. Il y a vraiment cet effet-là, quoi. C'est une couche extrême de dissociation. Bon, il y a encore plus extrême, hein, qui amène après les troubles psychiatriques. Et ça, effectivement, c'est passé avec, avec la thérapie EMDR.
Oui, je vous écoute et je perds ma question, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Oui, à la fin de votre livre, il y a une annexe, enfin, il y a des annexes avec justement une belle annexe avec des dessins sur la dissociation traumatique, comment l'hippocampe, l'amygdale, etc. réagissent à un trauma. Vous avez fait un burn-out aussi à un moment quand vous étiez en recherche de vous-même, vous étiez donc avec un enfant, je pense que l'enfant était déjà né là.
Quand ouais, vous étiez j'en ai fait trois des burn-out. Au troisième, j'ai compris que avant c'était aussi des burn-out. Et à chaque fois qu'on en fait un autre, ben c'est la première fois j'ai mis quelques mois à m'en remettre, la deuxième fois j'ai mis une année, la troisième fois un bon 2 ans. Quoi. Mais ça y est, j'ai compris.
Alors, quels sont les signes avant-coureurs du burn-out pour celles qui devraient se méfier?
Ouais, les signes avant-coureurs du burn-out, c'est le burn-in. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le burn-out, donc, et qu'est-ce que le burn-in, burn-out? Donc, ce qui se passe, c'est quand le corps, il perçoit que la situation qu'on est en train de vivre, il le perçoit comme une situation de crise. Donc, il va réagir à la situation en nous balançant d'hormones de stress. Donc, la personne, elle a beaucoup de cortisol et d'adrénaline, et ça va lui permettre de faire face à la crise. Donc, ça peut être, si par exemple, dans le boulot, il y a une période voilà, hyper intense, donc, bah, la personne, elle va être vraiment sur ses hormones de stress, et puis elle va pouvoir être opérationnelle, tac, et puis ça y est, la période de crise s'est arrêtée. On se repose, on se régule, tout va bien. Pareil face à un accident, face à des situations de crise. Le souci, c'est quand la situation de crise perdure ou que le cerveau analyse la situation comme une crise qui perdure. Donc ça va vraiment dépendre justement des antécédents de la personne. Les personnes qui font des burn-out, c'est des personnes qui sont en stress post-traumatique. Que ce soit un stress post-traumatique d'un trauma isolé ou un stress post-traumatique de trauma d'attachement, mais on ne fait pas un burn-out comme ça. C'est qu'il y a stress post-traumatique avant. C'est que le cerveau, du coup, va analyser la situation présente comme une situation de crise qui perdure, alors que d'autres pourraient ne font pas de burn-out parce qu'ils la gèrent autrement. Ça peut être de crise, mais ils savent, à un moment donné, s'arrêter, et etc. Donc, quand le cerveau analyse la situation actuelle comme une situation de crise, il va inonder la personne d'hormones de stress. Et puis, ça va durer, et puis ça va durer, et puis ça va durer. Le cortisol, donc ça peut durer plus ou moins longtemps. Hein. Il y a des cadres qui vont surfer 2-4 ans à fond de cortisol. Ils abattent des quantités de travail phénoménales, hyper efficaces. OK, en fait, ils s'en burn in à fond. Il y a le cortisol qui diminue en fait, enfin qui diminue. En réalité, les surrénales se chargent vraiment de cortisol, elles en produisent. Le fait qu'il y ait autant de cortisol dans le corps, ça va commencer à endommager les tissus. Au niveau du système nerveux, on peut sentir, moi je chantais que j'étais électrique, que je me brûlais un peu de l'intérieur. Et à un moment donné, d'un coup, il n'y a plus de cortisol. Donc, la personne qui la veille abattait des montagnes, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de batterie. La batterie, non seulement elle est vide, mais elle est même cramée parce que le cortisol, il brûle les tissus. Donc, non seulement il n'y a plus de cortisol, mais les surrénales qui stockent le cortisol sont endommagées. Et donc, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est en burn-in? C'est que on n'arrive plus à se poser. Il y a quelque chose, c'est tout le temps à fond. On n'arrive pas à à se poser, elle va prendre une pause déjeuner, même pendant la pause déjeuner, il y a 10 000 trucs, et le soir et tout le temps, et la personne, elle est en stress continu. Et ça peut... Alors moi, je me souviens, le père de mon fils à l'époque, il m'avait fait une remarque, il m'a dit, mais tu vois bien, tu n'arrives plus à t'arrêter, mais je connaissais pas encore, mais du coup, ça n'a pas suffi à m'alerter, mais c'est quand on est à fond et qu'on n'arrive plus à s'arrêter, là, c'est possible qu'on soit en burn-in. Il faut vraiment être vigilant. Et il y a vraiment ce truc de beaucoup, beaucoup d'énergie, mais une énergie qui n'est pas dans la détente et la joie. Parce que c'est vraiment tout à fait possible d'être efficace, plein d'entrain et être rempli d'énergie sans être en burn-in. La différence, c'est qu'on peut se reposer et que c'est joyeux. Il y a de l'entrain, ok, il y a peut-être une petite poussée de cortisol pour un petit moment court et puis on revient. Et on peut quand même avoir beaucoup d'énergie, mais dans la joie. Et le soir, on sait se reposer, on a un sommeil réparateur, on se réveille dans la détente, on n'est pas dès qu'on se réveille à fond à vouloir résoudre tout un tas de choses. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter.
Oui, surtout que quand il y a une dissociation traumatique, vous l'écrivez, c'est la première de vos annexes, vous faites des petits dessins et tout, on se rend compte que c'est pas possible pour quelqu'un qui est dissocié de pas être stressé. Il est stressé depuis cette dissociation.
Ouais. En fait, c'est là où faut du coup préciser, parce que toutes les personnes dissociées vont pas forcément faire un burn-out. Il y en a, ils vont plutôt se désengager. Quand on est dissocié, donc ok, il y a l'événement traumatique, le cerveau coupe, il coupe les sensations, les émotions, la mémoire, tout ça. Et il y a l'amygdale cérébrale, c'est elle qui détecte le danger. C'est elle qui, la première, a dit « attention, il faut réagir, on va mourir », qui a déclenché les hormones de stress. Ok, on peut pas faire face à la situation, bon ben laissez tomber les gars, on coupe tout, parce que sinon les hormones de stress peuvent tuer la personne. L'adrénaline à une dose provoque une crise cardiaque. C'est comme ça que je me suis retrouvée quand même à faire l'expérience de mort imminente. Et le cortisol brûle les tissus cérébraux. Du coup, si on est inondé comme ça, la meilleure réponse, Dieu merci, c'est la dissociation. Ça coupe. Mais l'amygdale, elle, on ne lui a pas dit que c'était terminé. Comme ça a coupé, tout ce qui est en train de se passer, tout l'événement traumatique, il n'est pas enregistré dans la mémoire autobiographique qui va permettre de donner la notion du temps. Genre, ah bah ça y est, c'est fini. Ça y est, le trauma est fini, on est rentré chez soi, on va bien. Ça, il n'y a nulle part, c'est écrit. Du coup, l'amygdale, elle est en train de dire, on est en train de mourir, on est en train de mourir, on est en train de mourir en permanence. Comme c'est mortel, l'information, on est en train de mourir par rapport aux hormones de stress que ça déclenche, elle va être enquistée, l'amygdale. On va lui dire, chut, doucement, dis pas trop fort, mais elle va continuer quand même. Donc, il y a du cortisol et en permanence qui infiltre la personne. Donc, c'est une personne qui est en stress chronique et une personne qui est très sujette au stress. Donc, soit la personne, elle va développer justement, elle va utiliser ce stress chronique pour abattre tout un tas de choses, etc. Puis c'est ce qu'on vient de dire, le risque et le burn-out. Soit elle va se désengager de toute activité parce que c'est beaucoup trop stressant pour elle. Et donc, ça a des personnes qui vont vraiment vivre en dessous de leur potentiel et de leur capacité, parce que le problème, c'est que dès qu'ils arrivent dans quelque chose qui est un peu challenge, enthousiasmant, mais en fait, pour eux, c'est trop de stress. Et ils vivent vraiment en dessous de qui ils sont. C'est aussi une autre possibilité.
Oui, une histoire avec l'hippocampe aussi, et ça m'a fait penser que les Alzheimer, ils ont souvent un problème d'hippocampe, et on peut se demander, on peut faire une corrélation.
Oui, tout à fait.
Ce nom de petite flamme, vous l'avez reçu justement pendant la NDE.
Oui.
Qui vous l'a donné?
Je ne sais pas si c'est ce nom qui m'a été donné pendant la NDE ou si c'est moi qui ai mis ce nom-là. J'en ai aucune idée. Juste que je me souviens, c'était petite, je parlais de ça. Je sentais que j'avais cette chose à l'intérieur de moi, je vais donner ce nom-là, petite flamme, ce souvenir de, que je suis plus que juste cet être-là qui est en train de vivre. On pourrait parler du contact avec son âme, cette intuition-là qui a été concrète puisque je l'ai contactée.
Mon Dieu, qu'il y en a sur les routes profondes de silencieuses croix qui veillent sur le monde. Haute croix du pardon, tendue vers les potences, croix de la déraison, ou de la délivrance. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête l'immense croix de plomb. Va. Comme l'amour, j'y accroche le vent, j'y retiens la tempête, j'y prolonge le soir et j'y cache le jour. Mais moi, pauvre de moi, je m'accrois dans la tête, un mot y est gravé. Ce mot familier que mes lèvres répètent est si lourd à porter que j'en pense mourir.
Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, IDFM98.fr sur toute la planète Terre, toujours avec Célia Rombaud. Nous parlons, nous essayons de retirer les couches de l'oignon et on va continuer cette émission. À quel moment vous avez rencontré Marie et Jésus dans votre histoire?
Ouais, ça c'est la belle partie. Alors. Je faisais du. Donc, c'était le Denis, le père de mon fils, mon compagnon à l'époque, qui avait pour projet de partir au Pérou travailler avec l'ayahuasca, la substance hallucinogène des chamans du Pérou. Et du coup, j'ai pris le train en marche et j'étais partie pour le suivre. Et avant d'aller. Dans la forêt amazonienne, j'avais quand même envie d'expérimenter le chamanisme sans plantes, de pouvoir communiquer avec d'autres dimensions sans une substance hallucinogène. Donc, pendant que lui était déjà parti, il est parti avant moi, j'ai fait du chamanisme hawaïen. Et donc, j'ai commencé à connecter avec l'esprit des arbres, des animaux, j'ai adoré. Et cette femme avec qui j'ai fait ça, elle avait une reliance particulière à la lignée christique. Et ça m'a un peu surprise. Mais c'était une femme qui m'inspirait beaucoup. Et du coup, ça a éveillé ma curiosité. Et elle m'a conseillé un livre qui s'appelle « Le Christ revient », qui est soi-disant une canalisation de Jésus. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... J'ai lu ce livre, je l'ai emporté en Amazonie. J'étais un peu déçue en lisant ce livre parce que dans les paroles qu'il y avait, il y avait quelque chose d'assez autoritaire, un peu dur. Donc, j'ai fait toutes les cérémonies d'ayahuasca. On est resté 2 mois dans le centre là-bas. Donc, au départ, on était plusieurs. Puis à la fin, il ne restait plus que Denis et moi. Et lors de la dernière diète que j'ai fait, donc les cérémonies d'ayahuasca, on les faisait toujours en groupe avec les deux chamans. Et puis, entre-temps, on faisait des diètes isolées dans des huttes. Et la dernière diète, ils m'ont proposé de diéter avec l'ayahuasca, donc de prendre l'ayahuasca seule. Donc le premier jour, ils m'ont donné juste une petite dose. Et le dernier jour, ils m'ont proposé de vraiment me donner la dose équivalente à une cérémonie. C'était une grâce. Donc j'ai reçu cette dose d'ayahuasca et j'étais seule dans ma hutte. Et puis à un moment, mes yeux sont tombés sur ce livre, Le Christ revient. Et de toute mon âme, quand j'ai vu ce livre, j'ai crié, mais moi je voulais recevoir l'amour de Jésus. Et au moment où j'ai dit ça, il y a eu des yeux immenses qui se sont dévoilés dans le ciel. Un regard d'amour incroyable et j'ai été transportée. Mon cœur s'est vraiment dilaté d'amour et j'avais vraiment des larmes de grâce et de gratitude. Ça a été la première rencontre avec Jésus. Et ça a été un peu à ce moment-là, voilà, il y a eu cette rencontre et puis c'était la bulle, c'était dans le cadre des cérémonies d'ayahuasca. Puis j'ai continué ma vie sans y penser plus que ça, sans développer un lien particulier avec Jésus ou la lignée christique. Et c'est revenu plus tard, après le burn-out. À ce moment-là, un concours de circonstances, qu'on aime bien, a fait que je me suis retrouvée avec un oracle, que j'ai là d'ailleurs avec moi, l'oracle de Marie, Mère universelle. Et j'étais donc troisième burn-out, encore angoissée. Il y a eu ce moment où j'étais là en train de tirer une carte de Marie et je venais de recevoir le tarot. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, peut-être qu'en fait, je vais toujours vivre angoissée. Il y avait ce côté du burn-out, tout d'un coup, j'avais plus aucune force, j'avais tout donné ce que je pouvais, et puis, ben, j'en étais arrivée à, voilà, quasiment crever, quoi. Et du coup, je me suis rendue. Il y a eu vraiment quelque chose comme ça qui s'est passé. Ok, ben, si je dois vivre ma vie avec l'angoisse jour après jour, ben ok, peut-être que c'est ça en fait mon chemin. Peut-être que mon chemin, c'est pas de guérir et puis d'être libéré de l'angoisse. Peut-être que mon chemin, c'est de vivre avec ça jour après jour. Et j'ai dit ok à ce moment-là. J'ai dit ok, ben.
J'accepte.
J'accepte. Si c'est ça, d'accord, ok, j'accepte. Et à ce moment-là, j'ai encore des frissons et des larmes. À ce moment-là, j'ai vraiment senti une présence autour de moi qui m'a enveloppée. À nouveau, mon cœur qui s'est ouvert et l'amour qui m'a inondée. Et les mois qui ont suivi, ça, c'était pas à chaque fois que je tirais une carte, mais régulièrement. Je tirais une carte et puis quand je lisais quelques mots, il y avait cette présence qui venait autour de moi et ces larmes de gratitude. Et puis parfois, ça venait petit à petit, ça s'est mis à venir juste quand j'étais comme ça dans la nature sans raison. Je sentais voilà, cette qualité qui m'enveloppait et puis l'amour. Et puis un jour, j'étais chez une amie, elle avait un portrait au dessin du Christ qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai pris une photo et moi, j'ai la chance de pouvoir bien dessiner. Avec mes études d'architecture, j'avais beaucoup appris ça et du coup, je l'ai reproduit. Et je me suis immergée dans ce portrait et en le dessinant, il est venu me voir. Et toute cette période où je dessinais, quand je me baladais, je sentais cette présence aimante. Et c'est vraiment une autre couleur encore, Marie. C'était pas cette chaleur qui m'enveloppait. Alors, il y avait la même intensité d'amour, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la droiture. Quelque chose où j'ai vraiment senti qu'il m'a enseigné la dignité. Et j'ai senti dans, j'étais, c'est la période où vraiment tous les détails de mon trauma sont remontés. Les viols, les caméras, le revolver, tout ce qu'on veut. Et il était là, et il y avait vraiment, ça m'a permis de garder la tête droite, et voilà, je suis une humaine sur cette terre, comme toutes les autres, et c'est notre lot d'humains, et comment je peux rester debout dans l'amour et accueillir les vagues de détresse qu'il y a dans mon corps, mais dans cet alignement. Et j'ai senti tellement de soutien et d'amour à cet endroit-là. Et puis après, peu de temps dans mon histoire, donc il y avait toujours Marie et Jésus que je pouvais sentir à des moments. J'ai rencontré le massage du sexe de la femme. C'est une grâce, le yoni massage. Et bon, je travaillais la sexualité énergétique, la sexualité taoïste hein, depuis une dizaine d'années déjà. Et je suis rentrée vraiment dans cette haute pratique qui a été vraiment libératrice pour moi. Aussi parce que je venais d'intégrer le plus gros de mon trauma. Et dans ce travail-là, à un moment, spontanément, j'ai vu le Christ et une femme à ses côtés que j'ai vraiment senti être Marie-Madeleine. Et elle s'est présentée plusieurs fois quand j'étais dans ce travail de massage de mon sexe. Et elle m'aidait vraiment à... Elle m'a guidée. Parfois, elle était à ma tête et elle m'aidait à ralentir le souffle. Elle m'envoyait des visions à plein de moments. Et quand après, j'ai commencé à partager ce type de sexualité avec un homme, quand on ouvrait l'espace sacré, vraiment, j'appelais ce qui pour moi est ce couple initiatique, Jésus et Marie-Madeleine, et je pouvais sentir leur présence qui m'invitait toujours à revenir à la présence, dans l'instant, à ne pas vouloir aller quelque part, à ne pas chercher, en l'occurrence dans la sexualité, l'orgasme, le plaisir, mais juste à être là. Instant après instant après instant, vraiment comme une méditation partagée et dans ce mélange des énergies, et c'est carrément autre chose qu'on vit dans ces moments. Et c'est vraiment une grande grâce. Et tous les matins, je fais ma prière et presque toujours, je sens l'amour, quoi. Et oui, je suis bénie.
Donc maintenant, vous donnez des soins, vous prenez des femmes en quête.
Ouais, j'accompagne des groupes de femmes. En fait, j'ai vraiment compris dans mon chemin que sortir du trauma, c'est une approche holistique. Donc la thérapie individuelle est fondamentale dans cette approche, mais l'approche par le corps, par l'énergie, par la spiritualité. Je suis aussi, vu mon histoire, passionnée par l'éveil de la sexualité de la femme. Et puis souvent, enfin, en tout cas, moi, dans le milieu de la sexualité en conscience, c'est rare qu'il y ait une connaissance fine du trauma et comment on se régule, etc. Et j'ai trouvé, vraiment, j'ai envie d'amener ça, parce que ça va tellement ensemble. Donc, c'est vraiment ça que je fais aujourd'hui et j'ai vraiment beaucoup de joie à faire. Donc, j'ai des cours en ligne, j'ai mis des retraites. Il y a des femmes que j'accompagne sur une année en groupe. Et puis, il y a encore plein de projets à venir, dans transmettre, partager tout ça. Vraiment, il y a cette envie de vraiment communiquer sur qu'est-ce que c'est le trauma, comment on s'en sort, que c'est possible de vivre aussi une sexualité épanouie, transcendante, peu importe ce qu'on ait pu vivre avant.
Pour en savoir plus, le site c'est
www.incarnelessentiel.com.
Incarné comme un verbe, l'essentiel, oui. tout attaché sans
l'apostrophe.
Sans apostrophe à l'essentiel.com.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer l'émission?
Que c'est possible. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Où que vous soyez, vraiment, c'est possible de s'en sortir. Et je donne vraiment beaucoup de clés dans mon livre ou même sur ma chaîne YouTube pour donner vraiment un maximum de connaissances pour que les personnes comprennent ce qui leur arrive et comment s'en sortir.
Oui, j'aurais aimé quand même qu'on parle de l'APSIS, l'analyse psychosomato-énergétique de William Reich. Parce que ça, ouais.
L'abscisse. du coup, ce qui est hyper intéressant dans l'abscisse, c'est le lien avec la circulation d'énergie et comment l'énergie, en fait, la circulation d'énergie est bloquée par différents diaphragmes qu'on a dans le corps qui se sont tendus lors de traumas. Et William Reich, il a étudié ça de façon assez précise et il a vu que selon la période à laquelle sont arrivés les traumas, si c'est des traumas précoces, donc c'est plus intercérébral, on va beaucoup travailler autour des oreilles, des yeux, de la bouche, des traumas plus autour du 2 ans, du contrôle, quand on est dans l'affirmation, ça va plus être des choses qui se passent au niveau du cou, au niveau des mains, etc., etc., toute la honte qui est logée dans le diaphragme thoracique, les traumas sexuels au niveau du bassin. Et c'est un travail où la personne, elle va faire des mouvements, donc selon quel niveau on travaille, donc ça peut être des mouvements oculaires, ça peut être des sons, des mouvements avec la bouche, avec le bassin, des respirations fortes avec le diaphragme. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, ces exercices, on les fait entre 10 et 20 minutes selon l'exercice et puis selon la période de la thérapie. Et donc, pendant ce moment-là, il y a le thérapeute qui est là en présence. La personne, elle fait cet exercice et il y a des choses qui émergent. Et ensuite, il y a une intégration par le partage en parole avec le thérapeute. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment aller stimuler la mémoire en allant remettre du mouvement dans les parties qui ont figé au niveau du corps et qui bloquent la circulation d'énergie. Donc, ça permet de retrouver vraiment la circulation d'énergie. Là où moi, j'ai trouvé une limite dans cette méthode par rapport à mon histoire et mon état, mon niveau intense de dissociation, c'est que le souci, si la personne, elle est pas, ou le thérapeute n'est pas hyper conscient de comment fonctionne la dissociation, dans ce type d'exercice qui va stimuler le trauma, la personne, elle peut dissocier, elle peut se couper et au final ne pas avoir accès à la régulation. C'est en ça où ben, mon chemin m'a amené après vers des choses plus spécifiques sur le trauma. Mais c'est vrai que sûrement que la psy avec un thérapeute qui est vraiment sorti de sa dissociation et qui a compris finement comment ça marche, c'est magnifique aussi comme approche.
En tous les cas, vous avez cherché un peu partout, hein, parce que c'était pas évident de trouver tout ça. Il y avait aussi l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Ça, c'est quelque chose qui vous a bien...
Oui, l'ICV, j'arrête pas d'en parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé le plus pertinent autour de la dissociation traumatique, autour de comment on intègre un trauma, autour de comment il faut absolument aller travailler les périodes précoces, tout bébé de la vie, pour augmenter sa capacité à soutenir l'intensité et donc intégrer des traumas. Ce principe de couche de l'oignon, il ne le nomme pas comme ça, mais c'est très très présent en thérapie ICV. Et pour moi, aujourd'hui, de tout ce que moi j'ai fait, hein, je n'ai pas tout fait, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus pointu pour l'intégration des traumas. Et c'est une thérapie qui est en train d'exploser en ce moment parce qu'ils ont vraiment des bons résultats. C'est une thérapie longue. Intégrer un trauma, c'est long parce qu'il y a des couches et des couches et des couches et qu'on est obligé d'aller voir dans tous les tiroirs de l'histoire pour sentir la sécurité au présent et augmenter sa capacité à soutenir l'intensité. Donc, c'est un engagement qui, si on peut le faire, vraiment vaut le coup.
Vous, ça a duré plus de 6 ans, votre histoire. Hein?
Oui, mais je n'ai pas tout de suite commencé avec l'ICV. Il y a d'abord eu la psys, ensuite le MDR, ensuite l'ICV. Et je continue pour affiner toujours des parts. Alors, je suis bien dans ma vie. C'est sûr que ce n'est plus du tout la même démarche qu'avant. Mais il y a toujours des morceaux qui sont encore à affiner, à intégrer.
Le livre s'appelle « Les couches de l'oignon » de Célia Rombaut, R-O-M-B-A-U-T. C'est publié chez Mama Édition. Merci beaucoup Célia Rombaut.
Merci Joël.
Merci.
Ya no sabe qué hacer. Tu drume, negrita, si tu drume voy a hacer una cunita que va a tener capitel, que va a tener cascabel. perfume, yo te traigo un mamey bien colorado. Y si no drume, yo te traigo un babalao que la papa. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y las negras merecen, ya no sabe qué hacer. Negras merecen, ya no saben.